j'ai fait des photos de ces objets. Je savais pas trop ce que j'allais en faire, en fait. Hein. Tu vois, c'est, tout ça, c'est, comment dire, c'est exactement de la façon dont je travaille tout le temps. C'est-à-dire, tu avances, tu sais, on sait, je sais pas où je vais, quoi, en fait. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est tout le temps... des fois, c'est même dangereux. Enfin, je veux dire, mentalement, des fois, je sais plus trop où je suis, quoi. C'est un peu perturbant. Alors, c'est peut-être très excitant. Il y a un côté très excitant parce que tu as l'impression d'être un aventurier. Tu es
toujours à la recherche
avec ton appareil photo dans ton atelier en train de faire tes photos. C'est la quête, quoi. Tu vois, l'espèce de chose après laquelle tu cours tout le temps. Puis ça s'arrêtera jamais avec moi, peut-être quand je serai mort. Et puis voilà, quoi. Mais les autres continueront et continuent déjà. Enfin, bon. Donc, ça. Voilà, et donc du coup j'étais en train de faire mes photos, et puis très vite, voilà, c'est-à-dire que du coup la photo que j'avais appris avant de faire les beaux-arts, dans lesquels je m'intéressais surtout à la peinture, avait disparu de ma pratique. Tu vois, c'était vraiment longtemps une pratique vraiment entièrement tournée vers la peinture et des questions très spécifiques à la peinture. C'est venu un peu comme parasiter ce champ, ou en tout cas ajouter quelque chose. Donc c'est déjà une hybridation. C'est-à-dire que le champ de la photographie a commencé à rentrer dans mon travail pictural d'une façon un peu inattendue. Puis j'avais déjà réfléchi à des choses que j'aurais pu faire, mais c'était trop, concret, quoi. J'étais en train de me dire, bon, alors si j'utilise la photographie, comment je vais pouvoir la mettre dans mon travail de pictural? Mais c'est une espèce de collage mental, ça n'avait pas de sens, quoi, tu vois.
Ouais.
C'était pas assez dense, riche, intéressant pour que je l'utilise de cette façon-là. Et là, en fait, ça me permettait une entrée beaucoup plus intéressante, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche et excitante. Donc j'ai fait des photos et j'ai commencé à les vidéoprojeter. Alors avant, j'ai fait un travail quand même, au départ, j'ai fait des séries où je suis passé par l'informatique avant de vidéoprojeter ces images. Je les ai vectorisées entièrement, c'est-à-dire que j'ai vidé
la
tout,
forme.
Pour qu'il ne me reste plus qu'un dessin, en fait, juste un tracé. Et donc là, il n'y avait plus de couleurs, plus de textures, il ne restait plus que juste un dessin dans l'espace, quoi, un tracé en fait. Hein. Et déjà, ça m'intriguait pas mal et ça m'intéressait parce que je me suis rendu compte que l'ordinateur pouvait sélectionner des zones, en faire disparaître d'autres, et totalement à mon insu. Et donc, bon, comme je ne contrôle pas parfaitement tous les paramètres, tu vois, je me disais, ah, c'est drôle, tiens, il a fait sauter ça, il a gardé ça. Ah ouais, bah, bon, c'est moi qui ai ajusté quand même les outils, mais quand même, quoi. Bon, donc je me suis dit, bon, voilà, ça fait partie du processus aussi. Je l'accepte, hein, j'accepte ces trucs qui m'échappent totalement. Et j'ai vidéoprojeté ça, puis j'ai commencé à travailler en suivant très simplement, en suivant les tracés avec une matière qu'on utilise habituellement dans la sculpture, dans le moulage, qui est le latex prévulcanisé. C'est ça en fait, c'est du latex liquide.
Ok. Il durcit après
Alors voilà, il durcit à l'air. D'ailleurs, il n'était pas vissé. C'est un latex qui durcit à l'air, dans lequel il y a beaucoup d'ammoniac. Si tu sens, ça sent très fort l'ammoniac. Ça permet d'éviter que ça durcisse. Et donc, j'ai au pinceau utilisé ça comme de la peinture, si tu veux.
D'accord, oui.
J'ai tracé donc, sur des formats blancs préparés de toile ou de papier, d'ailleurs. Et ensuite, je venais passer de la couleur là-dessus. Alors, de façon... là, c'est un peu rentré dans le détail aussi, ça peut être long, mais bon, la couleur était passée dessus, et ensuite on retire le latex, et on obtient une réserve, en fait, dans la couleur. Alors, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, ah oui, effectivement, je suis en train de dessiner dans la couleur. Bon, évidemment, j'aime bien Matisse, enfin, pas tout, mais une partie de son travail. Bon, lui, il dessine avec des paires de ciseaux, dans la couleur directement, enfin, il y a tout un rapport entre tracé, peinture, dessin, bon, toutes ces choses-là sont remontées assez vite. Et surtout, ça me permettait de mettre de la réserve dans ma couleur. Alors là, je me suis... d'un seul coup, je me suis dit, bah oui, si c'est une réserve dans la couleur, si je mets de la réserve dans ma couleur, je peux peut-être l'entendre aussi d'une autre façon.
Ouais.
Au second degré, tu vois, il y a mettre la réserve. Donc c'est pour ça que les premières séries se sont appelées réserve. Elles n'étaient pas sans me renvoyer non plus à une pratique de gravure que j'avais eue. Donc la gravure, tu vois, c'est vraiment...
Tu retires
voilà, c'est ça. En fait. C'est-à-dire, tu obtiens quelque chose par retrait plutôt qu'en ajoutant. Ce qui d'ailleurs est un peu contradictoire avec la peinture, parce que la peinture, en fait, enfin, pas vraiment, mais si tu veux, tu ajoutes des couches et puis tu obtiens un résultat. Bon, alors évidemment, quand tu ajoutes des couches sur d'autres, il y en a certaines qui disparaissent. Donc, c'est pas, tu les retires pas, mais tu les enlèves d'une certaine façon, tu les enlèves quand même, quoi. Mais c'est plutôt un ajout de choses qui fait qu'on obtient un résultat que dans la gravure, on enlève quelque chose pour pouvoir obtenir ça. Donc, bon, formellement, c'est assez proche de ça. Et donc, j'ai continué, j'ai poussé plus loin, et à certains moments, je n'utilisais plus la vectorisation. Je projetais directement mes photos. Mmh. Et là, c'est moi qui sélectionnais, c'est plus la machine. D'accord. Et là, c'est pareil, je faisais sauter certaines choses, pas d'autres, etc. Donc là, c'est vraiment... c'est pareil, c'est au continu. C'est un peu comme dans l'existence. Pour moi, c'est assez proche de ma façon de fonctionner dans l'existence. Mmh. Tu rencontres des gens, il se passe des choses qui sont positives, négatives, etc. Tu fabriques des choses, il y a des trucs qui ratent, d'autres qui... Ça va très très vite, tout ça. Tu es obligé de prendre des décisions sans arrêt, des milliers par jour, tout le temps, à ton insu. Donc, c'est le processus de l'inconscient qui est en route aussi. Donc ça se croisait avec des textes que je lisais aussi. Hein, parce que si je parle d'inconscient, c'est pas non plus en résonance, puisque à ce moment-là, je lisais et j'ai lu, c'est pas si longtemps que ça finalement, pas mal de textes liés à la psychanalyse. Donc il y a des gens qui s'intéressent à la pensée aussi. Donc. Et notamment, je me souviens d'un texte qui s'appelle « La fuite du sens ». Et qui est un texte qui est paru en littérature grise, c'est-à-dire il n'y a pas d'édition, pas encore, mais il y en aura probablement dans les années qui viennent, parce que c'est quand même Jacques-Alain Miller, donc, le légataire universel de Jacques Lacan, qui est un grand psychanalyste en France, qui a travaillé avec beaucoup de gens sur la question de la psychanalyse, puis qui je crois, dirige la cause freudienne. Et donc, ce monsieur a écrit ce pavé, quoi, qui sont en fait des retranscriptions, comme le faisait Lacan, de choses publiques.
D'accord.
Tu vois, donc des séminaires, en fait, ça s'appelle ça des séminaires. Des cours, en quelque sorte. Donc c'est une retranscription. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a aussi des choses qui croisent des questions qui sont artistiques, mais traitées par les psychanalystes pour un autre biais. Puis comme je n'ai pas toutes les clés, la façon d'appréhender ça, effectivement, ce n'est pas toujours évident ou très juste dans cette discipline spécifique. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. Et La fuite du sens a donné son nom à une autre série où j'ai fait une petite transgression, j'ai appelé ça La fuite des sens. Alors la fuite des sens, bon évidemment, si c'est une fuite des sens, c'est embêtant parce que...
Ça calme après.
Voilà, c'est ça. Ça peut s'arrêter quoi, à un moment donné. Hein. Mais on peut l'entendre aussi comme une fuite des sens, c'est-à-dire une fuite en avant. C'est autre chose là, oui, c'est plus la fuite
c'est une ouverture,
du côté de la perte.